إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 38 dans l'explication du livre Iqtida Sirat al-Mustaqim Mukhalafat Ashab al-Jahim, avec les explications et les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan. Donc on était toujours en train de parler au dernier cours au sujet de la divergence et des divergences de la Umma et différents cas de divergence. On a parlé de Ikhtilaf, اختلاف التنوع، اختلاف التضاد، et on va parler de ça un peu plus en détail encore. Donc le Cheikh Ibn Taymiyyah il dit: واعلم ان كثير واعلم ان اكثر الاختلاف بين الأمة الذي يورث الأهواء تجده من هذا الضرب، وهو ان يكون كل واحد من المختلفين مصيبا فيما يثبته او في بعضه، ومخطئا في نفي ما عليه الآخر، كما أن القارئين كل منهما كان مصيبا في القراءة بالحرف الذي علمه، ومخطئا في نفي حرف غيره، فإن أكثر الجهل إنما يقع في النفي الذي هو الجحود والتكذيب لا في الإثبات، لأن إحاطة الإنسان بما يثبته أيسر من إحاطته بما ينفيه. ولهذا نهيت هذه الأمة أن تضرب آيات الله بعضها ببعض، لأن مضمون الضرب الإيمان بإحدى الآيتين والكفر بالأخرى. وهذا وإذا اعتقد أن بينهما تضادا، يعني إذ التضاد لا يجتمعان. Donc, Cheikh al-Islam, il dit ici dans ce passage: sache que la plupart des divergences entre la Umma, le type de divergence qui ramène de la passion, tu trouves que ça fait partie de cette catégorie de divergence. C'est-à-dire que chacun des deux qui sont divergents l'un par rapport à l'autre, eh bien, chacun des deux a une partie de la vérité dans ce qu'il affirme. Il a la vérité dans ce qu'il affirme. Ou bien, il a une partie de la vérité. Soit il est correct dans ce qu'il affirme, c'est-à-dire les deux ont raison en même temps, ou bien il a raison dans une partie de ce qu'il affirme et il a une erreur dans la négation de ce que l'autre a comme position. Comme dans l'exemple qu'on a lu du hadith au dernier cours, le hadith qui mentionnait que Abdullah ibn Mas'ud, il a entendu quelqu'un réciter le Coran d'une façon et c'était différent de ce que lui avait appris. Alors il a dit, il l'a pris par la main, il l'a amené chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a fait réciter devant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce que lui avait mémorisé, puis l'autre a récité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: qu'est-ce que vous avez? Il a dit: lui il récite telle chose différemment de ce que moi j'ai appris. Alors le prophète a dit: ok, toi récite. Il a récité, il a dit: t'es quoi? Il a dit à l'autre: toi récite. L'autre a récité, il a dit: toi aussi t'es correct. Tous les deux vous êtes corrects. Et il leur a dit, il leur a interdit de diverger, d'avoir ces divergences-là. Il a dit: c'est comme ça que les peuples qui nous ont précédés ont péri à cause des divergences comme ça. Donc, le cheikh, il a dit, dans ce cas-là, les deux avaient raison. Parce que chacun récitait dans la récitation qu'il avait appris, dans la lettre qu'il avait appris et qu'il connaissait. Et il avait, chacun des deux avait tort dans yani, le fait de nier la lecture ou la récitation de l'autre. Et il dit que la plupart des formes d'ignorance qui se produisent dans la négation, c'est-à-dire dans le fait de renier ou de rejeter hein, la vérité, non pas dans l'affirmation. Mais parce que la connaissance que quelqu'un peut envelopper par rapport à qu'est-ce qu'il affirme, c'est plus facile que dans qu'est-ce qu'il nie. Et comment faire comprendre ça? C'est par rapport au fait que si je te demande combien de choses tu sais, c'est plus facile de dénombrer ce que tu as appris, le nombre de choses que tu as appris, que le nombre de choses que tu ignores. C'est-à-dire combien de choses tu ignores. C'est l'infini parce qu'on ne sait même pas la fin de la science. Tandis que si je te dis combien de choses tu connais hein, et combien de choses tu affirmes, c'est plus facile parce qu'on peut le mesurer. C'est quelque chose de précis. Et c'est pour ça que cette Ummah a été interdit de frapper les versets d'Allah les uns contre les autres. Donc si tu prends un verset puis tu le mets en opposition avec un autre verset, ou tu prends un verset, tu le mets en opposition avec un hadith authentique, ou bien deux hadiths authentiques, tu les mets un en opposition avec l'autre, tu les frappes un par l'autre. Donc cette Ummah a été interdite de faire ça. Et parce que ça comprend quoi? Ça comprend que c'est comme si tu frappais une partie, c'est comme si tu disais tu croyais en une partie puis tu rejetais l'autre. Tu crois une partie puis tu rejettes l'autre. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu crois qu'il y a une contradiction entre les deux. Et il ne peut pas y avoir ce genre d'opposé-là, ce genre de contradiction-là, ça ne peut pas être se réunir. Donc ça c'est ce que le Cheikh Ibn Taymiyyah a expliqué ici. Il dit, maintenant Cheikh Al-Fawzan il explique ce que Ibn Taymiyyah a dit. Il dit « قَوْلُهُ وَعْلَمْ أَنَّ أَكْثَرَ الْإِخْتِلَافِ بَيْنَ الْأُمَّةِ الَّذِي يُورِثُ الْأَهْوَى يعني أن الاختلاف الذي وقعت فيه هذه الأمة غالبه من هذا النوع وهو إنكار ما مع الآخر من الحق ولو أن كل طرف اعترف بما مع الآخر من الحق ما حصل أي اختلاف وتضاد وإنما يحصل اختلاف تنوع ولكن لما ظهر لأحدهما أن الآخر مخطئ وأنه ليس على الصواب يعني حينها فقط حصل الاختلاف المذموم فالاختلاف إذا كان من اختلاف التنوع فإنه لا يجوز الخلاف من أصله لأن كلا من الطرفين محق وقد يكون طرفا محقا من وجه ومخطئا من وجه آخر والطرف الثاني كذلك فالأصل أن نقبل الصواب ولو كان مع المخالف وأن نترك الخطأ ولو كان معنا وهذا هو الطريق الصحيح وبهذه الطريقة لا يحصل نزاع يؤدي إلى المحذور. Donc le cheikh il dit qu'Ibn Taymiyyah a dit que sache que la plupart des divergences qui arrivent dans la Umma parmi les formes de divergences qui ramènent de la passion, dans le sens que ça crée des divergences qui ramènent à vouloir suivre sa passion. Il dit ça veut dire que la divergence qui apparaît dans cette Ummah, la plupart de ces divergences-là font partie de cette catégorie. Que chacun renie ce que l'autre possède de la vérité. Chacun renie de ce que l'autre possède de la vérité. Et il dit, ولو أن كل طرف اعترف بما مع الآخر من الحق ما حصل أي اختلاف وتضاد. Si chacun reconnaissait ce que l'autre possède de la vérité, il n'y aurait pas eu de divergence, hein? Il n'y aurait pas eu d'opposition. Mais il dit la divergence, elle se produit hein, dans cette catégorie-là qui est la catégorie d'irtilaf, qui est l'irtilaf al-tanawwu, c'est-à-dire dans une divergence de variété ou de variation. Dans le sens que il y a différentes façons de faire la chose qui sont acceptables, qui sont valables dans la charia. Donc, quand il y a une divergence de cette sorte, hein, mais que ولكن لما ظهر لأحدهما أن الآخر مخطئ وأنه ليس على صواب حينها فقط حصل الاختلاف المذموم. C'est-à-dire quand il y a une divergence de variation, dans le sens que il y a plusieurs façons qui ont été rapportées dans le Coran ou dans la Sunna que on peut faire une chose en particulier, puis que cette divergence là elle est mentionnée, elle est affirmée dans la charia, eh bien, il n'y a pas de divergence, il n'y a pas de place pour la divergence dans ce cas-là, sauf si un des deux refuse d'accepter ce que l'autre fait. Hein? Donc, c'est là que la divergence commence. Okay? Donc, par exemple, et ça arrive souvent, on le voit souvent chez des musulmans, bon, qui sont convertis ou non, on le voit dans les deux cas. Mais moi, je l'ai vu souvent chez des convertis. Hein? On va dire qu'il y a un converti, il a appris dans un livre à faire le hazal ou à faire le tashahud. Puis l'autre converti, lui, il a appris lui aussi dans un livre à faire le tashahud, mais c'était un livre différent. Et dans chacun des deux, il y avait une version différente du tashahud, ou bien une différente version du hazal, par exemple. Et les deux versions sont acceptables parce que les deux sont rapportées dans la Sunna authentique. Alors, quand eux, ils se rencontrent, ils réalisent que chacun a une façon différente de faire le hazan ou de faire le tashahud, là, ils commencent à se disputer, puis à dire « Non, mais c'est pas bon, qu'est-ce que tu as lu? Moi, j'ai lu ça dans tel livre, ce livre-là, il est mieux que le tien, et toi, qu'est-ce que tu fais? C'est en contradiction, c'est pas correct. » Viens, on va aller voir, on va aller demander à tel. » Et là, ils commencent déjà à se disputer pour des choses comme ça. Donc, c'est ça que le cheikh, il donne comme un exemple. Ici, il dit, il n'y a pas de divergence en réalité. Mais, c'est des variations différentes de la même chose qui sont acceptables. Mais du moment qu'un considère que l'autre est dans l'erreur et qu'il n'a pas raison de faire ce qu'il fait, c'est là qu'il y a une divergence qui devient blâmable. Ok? Et il dit, donc, si la divergence fait partie de la divergence de différentes façons valables de faire quelque chose, dans ce cas-là, il n'est pas permis à la base de diverger à son sujet. À la base, ce n'est pas permis de diverger à son sujet. Pourquoi ? Parce que les deux côtés, ils ont raison. Hein? Et c'est possible que les deux ont raison d'un certain point de vue et que les deux soient dans l'erreur d'un autre point de vue. Et il dit la même chose pour l'autre partie. Les deux parties, ça se peut qu'ils se trompent d'un point de vue, mais qu'ils ont raison dans un autre point de vue. Donc il dit la base, c'est que chacun doit accepter ce que l'autre a de correct. Même si ce qui est correct, ça vient l'autre, il a quelque chose de correct, tu dois l'accepter, même si ça vient de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire ça vient de ton opposant, tu dois reconnaître s'il dit quelque chose de vrai, tu dois l'accepter. Et il doit lui de son côté abandonner ce qu'il a comme erreur, tu vois. Donc c'est pas parce que ça vient de quelqu'un d'autre qu'il va refuser d'accepter la vérité. Il dit et ça c'est la façon correcte, c'est comme ça qu'on doit agir. C'est-à-dire, si on a une divergence, on doit rejeter notre erreur et accepter qu'est-ce qui est correct chez l'autre. Si nous, on a fait une erreur, on doit rejeter notre erreur, garder qu'est-ce qui est correct. Et si l'autre, il a quelque chose de correct, il faut l'accepter de lui. Et il doit rejeter qu'est-ce qu'il a comme erreur aussi de son côté. Si on agit comme ça, il n'y aura jamais de divergence. Hein? Et ça ne va pas ramener quelque chose d'interdit dans ce cas-là. وقوله فإن أكثر الجهل إنما يقع في النفي الذي هو الجحود والتكذيب وهذا مثاله الذي وقع بين ابن مسعود والرجل حين اختلفا في القراءة حيث أن كل منهما مقتصر على ما معه من الحق ومنكر لما مع غيره من الحق والواجب على الإنسان أن لا يخوض فيما لا يعلم لأنه لا يعلم كل شيء. Donc le cheikh il dit l'exemple de ici que Ibn Taymiyyah a dit, la plupart des gens, yani, la plupart de qu'est-ce qui a rapport avec l'ignorance, ça tombe souvent dans, dans les affaires de, qui ont rapport avec la négation ou le rejet ou le fait de renier quelque chose. Hein? Comme qu'est-ce qui est arrivé entre Abdullah ibn Mas'ud et l'autre homme avec qui il a divergé par rapport à la récitation du Coran. Et ça, ça c'est quelque chose, yani, ça m'est déjà arrivé. Je me rappelle quand j'étais imam à la mosquée d'Ar al-Arqam et moi j'ai toujours appris le Coran, la récitation de Hafs, tout le temps, Hafs. Et c'est celle que j'ai appris, donc moi je ne connais pas Warsh, je n'ai pas étudié Warsh. Et la plupart des gens du Maghreb, eux c'est le Warsh qu'ils récitent. Ils connaissent Hafs aussi, mais disons qu'au Maroc, à l'Algérie, en Tunisie, souvent ils étudient, ils apprennent la récitation de Warsh. Donc, il y a un frère, subhanallah, chaque fois que je récitais dans la salat, à chaque fois il me corrigeait. Et au début, tu vois, je n'avais pas réalisé, mais chaque fois il me mettait des doutes dans ma récitation, tu vois, parce que je me dis, mais en moi-même, je dis, j'ai pas l'impression d'avoir fait une erreur. Je suis certain que je l'ai appris comme ça et que ça c'est correct. Mais le frère, il me corrigeait. Alors même qu'une fois j'ai eu un doute et même j'ai corrigé donc j'ai corrigé l'erreur qu'il m'a dit dans la salat. Et après la salat, je suis allé vérifier dans le mushaf et j'ai vu que j'ai dit mais j'ai raison. Subhanallah, pourquoi il m'a corrigé, tu vois? Puis c'est après que j'ai réalisé en fait que dans la récitation de Warsh, il y a des différences dans certaines choses. Donc à cause de ça, ils ont eu des contradictions là entre moi et lui par rapport à ça. Mais c'est juste pour dire que des fois on peut diverger à cause de notre ignorance, hein, de certaines choses. Et puis une fois que j'ai compris que on n'avait pas appris la même lecture ou la même récitation, là, par la suite, j'ai compris, tu vois, que pourquoi il me corrigeait, tu vois. C'est juste un exemple qui aide à comprendre ce cas-là, tu vois. Donc, il dit, tous les deux se limitaient uniquement à ce qu'il avait comme de la vérité avec lui. Mais le problème, c'est qu'il reniait ce que l'autre possédait de la vérité. Parce qu'il y en a, il ne savait pas. Donc le cheikh il dit الواجب على الإنسان أن لا يخوض فيما لا يعلم وأنه لا يعلم كل شيء ولأنه لا يعلم كل شيء فإذا خفي عليه شيء فالأصل أن لا ينكر وإنما يتثبت أولا أي لا يتسرع في الإنكار ولكن يتثبت لأنه ربما يكون مع المخالف وجه من الصواب فإذا أنكرت ما معه أنكرت الحق فالواجب في هذه الأمور التؤدى والتثبت والتروي قبل أن يصدر حكما على ما عند الآخرين. Et ça là, qu'est-ce que le cheikh il mentionne, ça c'est un point très important. Si nous on applique ça, on aura réglé un grand problème par rapport à des divergences qui arrivent parfois entre les frères. C'est quoi le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? C'est que c'est obligatoire à quelqu'un de ne pas rentrer dans des disputes et des désaccords et des disputes dans ce qu'il ne connaît pas. C'est-à-dire souvent ça c'est des choses qui arrivent entre frères convertis ou des frères qui sont nouveaux dans la pratique de la religion ou de la sunna. Ils disputent entre eux sur des choses qu'ils ignorent. Ok? Et il dit le cheikh, il y a personne qui connaît toutes choses. Premièrement, il y a personne qui sait tout. Donc, s'il y a quelque chose qui t'échappe ou que tu ignores, il dit le cheikh, la base, c'est que tu ne dois pas nier. Tu ne dois pas nier ce que l'autre dit ou ce que l'autre fait. Tu vois? Mais il y a des gens, systématiquement, s'ils voient quelque chose qu'ils ne connaissent pas, tout de suite, ils nient automatiquement. Ah non, qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est pas correct. Hein? Alors qu'il ne sait même pas peut-être que c'est quelque chose qui est correct, mais lui il ne le connaît pas, donc il le nie. Ça c'est grave. Donc il dit, qu'est-ce qu'il faut faire en premier? il dit wa innama yatathabbat awwalan. Première chose, qu'est-ce qu'il fait? Yatathabbat, ça veut dire quoi? Il vérifie. Première chose, tu vas vérifier, tu vas confirmer la chose. Donc quelqu'un te dit, Yahri, il ne faut pas faire ça, ça c'est pas correct, pourquoi tu fais ça? Yahri, toi tu dis que c'est pas correct, pourtant moi j'ai lu telle, telle chose, un hadith sahih qui dit, ça c'est correct. Il dit, ah non, ça se peut pas. Comment ça, ça se peut pas? Hein? Donc il nie, ah moi je suis pas d'accord avec ça, il ne faut pas faire ça. Alors que réellement, il y a un dalil qui dit vraiment qu'il peut faire ça. Tu vois, mais toi tu le savais pas, donc au lieu de dire d'accord, puisque tu le dis, on va aller vérifier. Mais au lieu de dire on va vérifier, tu dis non, ça n'existe pas. Donc là, ça ramène de la fitna, tu vois, parce que la personne peut-être elle va s'énerver, elle va se fâcher, tu vois. Puis ça, c'est des choses que souvent c'est ça qui arrive. Des fois, il y a un frère qui me dit j'ai lu ça dans un hadith. J'ai dit ah, t'as lu ça dans un hadith, frère, inchallah, on va vérifier. On va aller vérifier, ramène le hadith, puis on va voir. Mais il y a des frères qui disent, j'ai lu ça dans un hadith. Ah, quel hadith? Toi, t'as lu ça dans quel hadith? Tu connais les hadiths, toi? Tu vois? C'est comme la personne, elle dénigre l'autre, puis elle la rabaisse, puis elle veut pas accepter qu'est-ce que la personne a dit. Alors que peut-être qu'il a dit vrai. Hein? Ou à la limite, peut-être qu'il s'est trompé dans sa compréhension, ou il a mal lu. Et donc le fait d'aller vérifier, ça va clarifier l'affaire, ça va régler le conflit ou le problème. Donc commence pas par la négation, commence par la vérification. Une fois que tu as vérifié, là tu peux savoir si c'est vrai ou non. Le cheikh il dit, tu dois pas te précipiter à renier et à rejeter, mais vérifie en premier, hein? Vérifie et clarifie les choses. Peut-être que la personne avec qui tu es en divergence, lui, il a une partie de qu'est-ce qu'il dit qui est correct. Donc, si tu renies complètement ce qu'il fait, peut-être que tu vas renier une partie de la vérité. Tu vois? Donc, c'est obligatoire dans ces questions-là de prendre sa cool, hein, de relaxer, d'attendre, de se calmer, de pas se précipiter, de pas se presser à vouloir nier ou à établir un verdict sur les autres. Prends ton temps, hein, vérifie avant. Et si tu vérifies, tu vas jamais regretter. Si tu prends ton temps pour vérifier comme il faut, tu vas pas regretter. Au contraire, tu vas être encore plus fort. Parce que si la personne a vraiment tort, quand tu vas lui montrer qu'il a tort, tu vas lui montrer, tu vas être convaincu, tu vas avoir les preuves. Et tu vas dire, toi tu as affirmé ça ou tu as nié ça, voici la preuve maintenant. Qu'est-ce que les ulama ont dit? Qu'est-ce que ils ont ramené comme dalil? Voilà. Après, il n'y a plus de débat. C'est déjà arrivé, une fois, quand il y avait un sujet, j'avais mentionné quelque chose à propos d'un verset dans le Coran. Et la compréhension du verset, je l'ai entendu de la part d'un parmi les mashayikh, qui expliquait le verset de telle façon. Donc moi, quand je traduisais le verset, je traduisais selon l'explication, l'interprétation que le cheikh a mentionnée. Alors là, il y a des gens qui commencent à me critiquer. Ah, tu traduis de telle façon ce verset-là, ça c'est pas correct, comment tu peux dire ça? Moi j'ai rien dit, je sais que ça vient d'un des ulama, donc j'ai pas de problème. C'est-à-dire, si le alim en question il s'est trompé, c'est possible qu'il se trompe. Mais je lui ai mentionné, je lui ai dit, ah oui, ça c'est quelque chose que j'ai lu de tel cheikh. Il m'a dit, ah mais c'est pas bien dit, nanana. J'ai dit, ok, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis retourné dans les livres de tafsir, j'ai ramené l'explication de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, qui détaille toute l'explication du verset et le tafsir en détail, et après je lui ai envoyé ça. Après, l'affaire était clarifiée. Donc il n'y avait plus de divergence. Mais c'est pour dire, des fois, quelqu'un il ignore quelque chose, alors il a une choubha, ou bien il a un doute, ou bien quelque chose comme ça. Donc tu lui clarifies, puis les choses sont réglé par la suite. D'accord? Le cheikh il dit, وقوله ولهذا نهي هذه الأمة أن تضرب آيات الله بعضها ببعض. الله جل وعلا يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فالله قسم القرآن إلى محكم ومتشابه، وأمر بمرد المتشابه إلى المحكم، ولكن بعض الناس يأخذ طرفا ويترك الطرف الآخر، وهذا هو الزيغ الذي أخبر الله سبحانه وتعالى عنه بقوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فالذي عنده زيغ لا يرد المتشابه إلى المحكم، بل يأخذ المتشابه لأجل إيقاع الفتنة. Donc le cheikh il dit, c'est pour ça que cette umma, elle a été interdite de frapper les versets d'Allah les uns contre les autres, pour essayer de faire croire ou de montrer qu'il y a des oppositions ou des contradictions dans le livre d'Allah. On n'a pas le droit de faire ça. Tu prends un verset, quelqu'un te dit un verset, puis là toi tu lui réponds par un autre verset pour le contredire. Alors que, ça c'est la parole d'Allah. Il ne peut pas y avoir de contradiction dans la parole d'Allah. Donc le cheikh il dit, et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné ce qui signifie dans le verset 7 dans surat Al-Imran: c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre, parmi ces versets il y a ceux qui sont clairs et explicites, qui ne peuvent avoir qu'une seule façon d'être compris d'une seule façon, qui sont la base du livre, les muhkamat. Et il y a d'autres versets qui sont mutashabihat, c'est-à-dire équivoques, qui peuvent avoir plusieurs façons d'être interprétées et compris différemment. Alors, le cheikh Al-Fawzan dit, Allah a divisé le Coran en deux catégories de versets. Les versets qui sont muhkam, c'est-à-dire clairs et explicites, qui veulent pas, que quand tu les lis, ça peut juste vouloir dire une chose. Puis, les versets qui sont mutashabihat, mutashabihat, c'est-à-dire qui peuvent prêté à plusieurs interprétations quand tu les lis, qui sont équivoques. Et l'ordre d'Allah, c'est de, quand il y a un mutashabih, quand il y a un verset qui est mutashabih, pour le comprendre, comment tu fais? Tu l'interprètes en te basant sur le muhkam. Donc tu prends le verset qui est mutashabih, ou le hadith qui est mutashabih, et tu le ramènes aux autres versets qui parlent de ce sujet-là, mais qui sont muhkam, qui sont clairs et explicites. Puis, là, la signification de ces versets-là se clarifie et devient claire. Bien entendu, c'est les ulama qui ont l'aptitude et la capacité de faire ça, mais c'est ça la méthode d'Ahl-Sunnah. Comme on expliquait l'autre jour pendant le cours, dans le livre Al-Muhkam wal-Mutashabih fi al-Takfir wal-Jihad, Cheikh Mohamed Bezmoul l'a expliqué, cette question-là. Puis, il disait donc que quand il y a des versets qui sont équivoques, la façon de Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est de ramener tous les versets qui parlent d'un même sujet et de les lire ensemble pour arriver à comprendre la question et le sens apparent réel du Coran. Pas tu prends juste un verset tout seul, puis tu essaies de le comprendre sans prendre en compte tous les autres versets et les hadiths qui parlent de ce sujet-là en même temps. Parce que si tu prends juste un verset seul et tu laisses les autres, eh bien, tu ne vas pas arriver à avoir la vraie compréhension de ce sujet-là. Et donc, je donnais au frère l'exemple, le verset qui dit « فَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ سَقِفْتُمُوهُمْ » Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un verset dans le Coran, « Tuez-les où que vous les trouvez. » En parlant des mushrikines. Donc, si quelqu'un il va prendre ce verset-là et il dit « Tuez-les où vous les trouvez », il va sortir dans la rue, il va voir des croix, des mouchriquins, il va les tuer. Parce qu'il va s'imaginer que c'est ça le sens du Coran. D'accord? Toutefois, les ulama d'Ahl-Sunnah, il n'y a personne d'entre eux qui ont dit que ça c'est permis. Pourquoi? Parce que la façon dont les ulama d'Ahl-Sunnah comprennent le Coran, c'est qu'ils ne prennent pas juste un verset tout seul qui parle d'un sujet. Ils prennent tous les versets ensemble, et les hadiths aussi, qui parlent de ce sujet-là, et ils voient les règles et les conditions, les choses spécifiques qui sont reliées à ce sujet-là, et là, après ça, ils jugent. C'est pas juste un verset comme ça, tu prends en dehors de son contexte, puis tu essaies de l'appliquer selon ta propre compréhension. Parce que ça, si tu fais ça, tu n'as pas appliqué le sens réel du Coran. Ok? Et donc, c'est pour ça, il y a des gens qui disent, il faut pas prendre le Coran au sens littéral. Au sens littéral. Il ne faut pas prendre le Coran au sens apparent. C'est faux. Il faut prendre le sens. Il faut prendre le Coran au sens littéral. Il faut prendre le Coran au sens apparent. Mais le sens apparent, ça ne veut pas dire de prendre un verset hors de son contexte, de l'appliquer selon sa propre compréhension. D'appliquer le verset dans son sens apparent et dans son sens littéral, ça veut dire que tu vas prendre tout ce qui est mentionné à ce sujet-là, et tu le mets ensemble, tu l'étudies, tu l'analyses, tu vois après les règles qui sont reliées avec le sujet en question, et là tu peux l'appliquer. D'accord ? Et donc tu vas savoir que le verset, qu'est-ce que ça veut dire, et comment ça s'applique, et les conditions qui sont reliées à ce verset-là, et dans quel contexte il a été révélé, et pour quelle raison il a été révélé, et comment les sahabes l'ont appliqué, selon la situation et le contexte, et ainsi de suite. D'accord ? Donc, ça c'est un exemple. Les gens de Bid'a, c'est ça. Ils prennent le verset, ils l'interprètent selon leur passion et leur désir. Et ils prennent un verset, puis ils laissent les autres, alors que les autres parlent du même sujet. Hein? Et donc c'est pour ça qu'ils tombent tout le temps dans la contradiction. Tu regardes par exemple les Qadariya qui nient le Qadar, ils prennent une partie des versets qui parlent du Qadar, mais ils laissent les autres. Et les Jabriya, eux, ils exagèrent dans l'affirmation du Qadar. Donc ils sont à l'autre opposé des Qadariya qui nient le Qadar. Donc eux, ils prennent une partie des versets, puis ils laissent les autres. La même chose pour l'Iman. Les Khawarij, ils prennent une partie des versets, ils laissent les autres. Les Murji'a, ils laissent une partie des versets, ils prennent pas les yani, ils prennent une partie, ils laissent les autres. Yani al-Mu'attila, al-Jahmiya, al-Mu'tazila, al-Asha'ira, al-Maturidiya, quand tu regardes à propos des Asma wa Sifat, la même chose. Hein? Et toutes les, il n'y a pas une firqa parmi les firqas, excepté qu'ils agissent de cette façon-là avec les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, le Cheikh, il dit, c'est ça. Il dit. Exactement. Tu prends les versets au sens apparent. Mais certains ont mal compris qu'est-ce que signifie de prendre le verset au sens apparent. Certains pensent que de prendre au sens apparent, ça veut dire que tu prends le verset n'importe quel et tu le prends tel quel, puis tu l'appliques sans prendre en considération tout ce qui a été révélé sur le sujet. Et ça, c'est pas le sens apparent. D'accord ? C'est pour ça que beaucoup de gens ont mal compris. Et donc, le cheikh dit ensuite, Naam. Donc on est ordonné de prendre le mutashabih et de le ramener à qu'est-ce qui est muhkam pour le comprendre. Il dit, mais certaines personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent juste une partie et ils laissent l'autre partie. Et ça, c'est l'égarement. C'est ça l'égarement que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le verset après quand il dit, mais ceux qui ont une déviation dans le cœur. C'est ça la déviation. Hein, c'est ça, zayr. Tu prends une partie des textes et tu laisses l'autre. Ils font exprès d'aller vers les versets qui sont équivoques seulement. Ils ne veulent pas le muhkam. Pourquoi? Parce que le muhkam, tu ne peux pas jouer avec. Il est clair. Mais tu ne peux pas jouer avec selon tes passions et tes désirs pour manipuler son sens. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas y aller, tu vas l'utiliser pour tromper les gens, pour jouer avec leur esprit, pour essayer de les mélanger dans qu'est-ce qu'ils savent, pour les dévier. Hein? Comme les Khawarij, qu'est-ce qu'ils font avec les versets qui parlent du djihad, ils essaient de les utiliser pour leur faire croire que oui, oui, tu peux aller te faire sauter, tu peux aller faire ci, tu peux aller faire ça, tu vas aller direct au paradis. Hein? A'udhu billah. Donc, c'est pas comme ça, tu vois, qu'on prend le verset. Donc, oui, même les kuffars, ils font ça. C'est ça, ils jouent. Il y a un côté des extrémistes parmi les musulmans qui déforment le sens du Coran et qui font des choses qui sont en contradiction avec la charia et qui, eux, pensent que c'est correct parce qu'ils pensent que c'est ça la parole d'Allah. Puis il y a les kuffars, eux, qui sont en train d'utiliser ces extrémismes-là comme argument contre l'islam pour essayer de discréditer l'islam pour dire ça c'est quelque chose qui est pas correct. Et donc c'est les deux extrêmes. Et donc quand on revient à la compréhension des salafs, eh bien avec une pierre on frappe ces deux groupes là en même temps, parce qu'on les réfute et on montre que ni les extrémistes ni les kuffars ont raison par rapport à ce qui est mentionné dans la parole d'Allah. Donc ceux qui ont une déviation dans le cœur, ils suivent ceux qui est équivoque dans les versets, en cherchant à créer de la fitna et en essayant de les interpréter. Donc, il dit le cheikh, celui qui a une déviation, il ne ramène pas qu'est-ce qui est celui qui a une déviation, il ne ramène pas ce qui est équivoque aux versets qui sont explicites et clairs. Au contraire, il fait exprès de prendre ce qui est équivoque seulement, et ce qui est mutashabih seulement, dans le but de créer de la fitna. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le cheikh il dit ensuite, والقرآن الكريم يفسر بعضه بعضا ويوضح بعضه بعضا لأنه من عند الله عز وجل والذي من عند الله لا يختلف أبدا ولا يتناقض ولهذا فإن الراسخين في العلم يردون المتشابه إلى المحكم ويقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا أي كما زاغ أولئك فأخذوا بالمتشابه وتركوا المحكم وأخذوا بطرف وتركوا الطرف الآخر فزاغوا. Donc le cheikh dit le Coran il s'explique lui-même. C'est-à-dire il y a les versets qui expliquent les autres versets. Quand il y a un verset qui n'est pas explicite et clair, eh bien il y a d'autres versets qui sont explicites et clairs qui viennent le clarifier ce verset-là. Comme on sait, yani, y a des fois c'est le Coran qui explique le Coran, des fois c'est les hadiths qui expliquent le Coran aussi. Hein? Donc, le Coran et la Sunna, ils sont là pour s'expliquer. Hein? Le Coran explique le Coran, la Sunna explique le Coran. Et la Sunna explique la Sunna aussi, parfois. Et il dit donc, c'est pas possible qu'il y ait une contradiction entre les versets d'Allah puisqu'ils viennent tous de la part d'Allah. Donc il ne peut pas y avoir une contradiction dedans. Hein? Et donc, il n'y a pas de contradiction et ceux qui sont fermement enracinés dans la science, les ulama, eux, lorsqu'ils voient des versets équivoques, ils les ramènent à ce qui est muhkam pour le comprendre. Et ils disent, nous y croyons, tout cela vient de notre Seigneur. Hein, mais seuls ceux qui détiennent la raison ou la connaissance, yani, se souviennent. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous enseigne à dire, yani, le dua, Rabbana la tuzir qulubana. La tuzir, yani, ça veut dire, fais pas que notre cœur commence à dévier. Hein, yani, ça vient comme si, fais pas que le zayr rentre dans notre cœur. La tuzir qulubana. Az-zayr, la tuzir, c'est le verbe impératif, hein, de al-zayr. Hein, az-zayr, c'est le nom, et la tuzir, c'est le verbe. Donc, on demande à Allah de ne pas faire dévier nos cœurs, et le cheikh, il dit, de la même manière que ceux-là ont dévié. Hein, en prenant uniquement ce qui est équivoque et en laissant de côté ce qui est explicite et qui est muhkam. Et donc, ils ont pris une partie des textes et ils ont laissé l'autre partie et c'est à cause de ça qu'ils ont dévié. Il dit le cheikh ensuite, « والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على أصحابه وهم يتنازعون في القرآن كل مصيب بما يحتج به قال لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض فالواجب على المسلمين أن يعتقدوا أن كلام الله كله حق وأنه لا يتعارض ولا يتناقض وأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك. Donc c'est comme il dit le cheikh ici que le prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il est sorti vers ses compagnons parce qu'il les a entendus en train de se disputer à propos du Coran. Eh bien, il a été en colère parce que chacun des deux avait raison. Alors, il leur a dit, ne frappez pas le Coran une partie contre l'autre. Ne frappez pas le Coran une partie contre l'autre. Et ça, c'est un hadith rapporté par Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, dans la musnad de l'imam Ahmad. Il dit, l'obligation pour les musulmans, c'est de croire que la parole d'Allah, elle est vraie en entier. Hein, elle est totalement et complètement vraie et qu'il n'y a pas de contradiction ni d'opposition entre les différents versets de la parole d'Allah. Hein. Et il dit وأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك. La même chose pour la parole d'Allah et la parole du messager صلى الله عليه وسلم. Tu dois pas penser qu'il y a des contradictions entre les paroles du prophète ou du messager صلى الله عليه وسلم. Je me rappelle par exemple des exemples de certaines personnes parmi les gens de la passion qui déforment le sens du Coran pour essayer de suivre leur désir, comme par exemple par rapport à la polygamie. Et il y a des gens à notre époque qui sont contre la polygamie parce qu'ils sont influencés par les Occidentaux, donc ils veulent être monogames et ils prétendent que la polygamie est interdite. Et ils essaient d'utiliser pour prouver ça des versets du Coran. Donc il y a un verset dans le Coran clair qui dit dans le Coran « فَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَعَ » Allah subhanahu wa ta'ala dit « Épousez des femmes qui vous plaisent, il y en a deux, trois ou quatre. » فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ » Donc le verset est clair pour dire que tu peux marier deux, trois ou quatre. Sinon, si tu crains de ne pas être juste envers les orphelines, dans ce cas-là, tu maries juste une ou des esclaves. Donc, il y en a d'autres qui ont pris un autre verset dans le Coran, dans la Sourate An-Nisa, ça c'est le verset 127, qui ils essaient de l'utiliser pour dire que comme si Allah subhanahu wa ta'ala disait par la suite, mais vous ne serez pas capable d'être juste. Donc ils utilisent ce verset là pour dire bon, ça c'est la preuve que la polygamie c'est pas permis. Ah oui, وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. Ça dit, c'est dans le verset 129, dans Sourate An-Nisa, vous ne pourrez jamais être juste entre vos femmes, même si vous en êtes soucieux. Ne penchez pas tout à fait vers l'une, au point de délaisser l'autre comme en suspens. Donc, les ulama ont expliqué ce verset-là. Ils ont dit que ça voulait dire, que vous n'allez pas être capable d'être juste par rapport aux questions qui ont rapport avec l'amour des choses comme ça. Donc, le cœur, c'est Allah qui le contrôle. Tu ne peux pas garantir ou promettre ou penser que tu vas aimer toutes tes femmes de la même façon. Mais malgré que tu n'aimes pas toutes tes femmes de la même façon, que tu en aimes certaines plus que d'autres, mais tu dois quand même être juste dans les questions matérielles. Et qu'est-ce qui a rapport avec le temps et les choses de ce genre. Donc, le verset ne dit pas que vous ne pouvez pas prendre plus qu'une femme ou jusqu'à quatre, mais il dit de pas délaisser une complètement alors que vous êtes avec l'autre. Mais eux, ils ont essayé de l'interpréter pour essayer de nier la permission de la polygamie. Donc, il y a plein d'exemples comme ça, comment les gens de Bid'a essaient d'utiliser des choses pour essayer d'annuler des versets. Donc, c'est comme s'ils voulaient frapper un verset par l'autre. Comme s'il y avait des contradictions dans le livre d'Allah. Un verset qui dit oui, tu peux, puis l'autre verset qui dit non. Et là, eux, ils se basent là-dessus pour essayer d'interdire quelque chose qui est permis dans l'islam. Donc, ça, c'est l'égarement, de ces gens-là. Non, mais ça c'est les chi'as, les rafidhas. Non. Qu'est-ce que tu disais, Mando? Qui mentionne ça? Subhanallah. Ok, parfait. Donc le cheikh il dit, donc la parole d'Allah elle se contredit pas, la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam ne se contredit pas. Il dit فَإِنْ أَشْكَلَ عَلَى الْمُسْلِمِ شَيْءٌ مِنَ الْأَدِلَّةِ فَلَا بُدَّ مِنَ الرُّجُوعِ إِلَى الْأَدِلَّةِ الْأُخْرَى فَرُبَّمَا يَكُونُ هَذَا الَّذِي مَعَكَ مَنْسُوخًا وَالْمَنْسُوخُ لَا يُعْمَلْ بِهِ أَوْ مُطْلَقًا وَهُنَاكَ مَا يُقَيِّدُهُ أَوْ عَامًّا وهناك ما يخصصه، وهذه الأمور لا يتفطن لها إلا الراسخون في العلم. أما الجهلة والمتعالمون فهم يأخذون بعض النصوص ويتركون البعض الآخر، ويقولون نحن نستدل بكتاب الله وسنة رسوله، وهم لا يستدلون، وهم لم يستدلوا بكتاب الله حيث أخذوا طرفا وتركوا الطرف الآخر، وإنما هم أخذوا بالمتشابه. S'il y a quelque chose que le musulman a de la difficulté à comprendre par rapport aux preuves de la charia, donc il doit revenir aux autres preuves. Peut-être que le verset qu'il est en train de prendre comme preuve, c'est un verset qui a été abrogé. Ok ? Et donc, on n'a pas à appliquer ce qui a été abrogé. C'est possible également que ce soit un verset ou quelque chose, une preuve qui est mutlaq, c'est-à-dire qui est absolue, et il y a d'autres versets qui viennent le restreindre et le limiter dans son application. Ou bien que le verset soit un verset qui est général, mais qu'il y a un autre verset qui vienne le rendre plus spécifique et particulier. Et donc, ça c'est des choses que les gens ne prennent pas en considération, sauf les hommes de science, qui sont fermement enracinés dans la science, tandis que les ignorants, ou ceux qui prétendent avoir la science, eh bien, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une partie des preuves et ils laissent les autres. Et ils disent, nous, on se base sur le Coran et la Sunna. Et on prend la preuve du Coran et de la Sunna. Et le cheikh, il dit, non, pour de vrai, ils n'ont pas utilisé la preuve du Coran et de la Sunna. Ils ont juste pris une partie puis laissé l'autre. Et ça me fait penser à qu'est-ce qui est arrivé une fois dans une conférence de l'autre là, comment il s'appelle, Tariq Souaidan. Il est venu ici au Canada, il a fait une conférence à Toronto. Et le sujet de sa conférence c'était comme la démocratie et la liberté dans l'islam ou quelque chose comme ça. Puis dans la conférence qu'il a fait, il a dit des absurdités, des paroles de kufr, hein, des choses graves. Mais qu'est-ce qu'il disait au début de sa conférence? C'est qu'il dit, tout ce que je vais dire, je vais citer une preuve à son sujet. Soit un verset dans le Coran ou un hadith. Mais il dit, mais je ne vais pas utiliser les ulamas. Je ne vais pas citer des ulamas. Mais je vais tout ce que je vais dire, je vais citer une preuve, soit du Coran ou soit de la Sunna. Mais il dit, je ne vais pas citer les ulamas parce que les ulamas, ils jouent avec la religion, ils commencent à attaquer les ulamas. Donc tu vois tout de suite que l'homme est malhonnête et qu'il ne veut pas se référer aux ulama. Pourquoi? Parce que les ulama d'Ahl Sunna, ils ont clarifié les fondements de la religion. Et ils parlent en se basant sur des preuves et ils n'analysent pas juste une partie des preuves, ils prennent toutes les preuves au complet. Oui, un manhaj, une méthodologie. Tandis que lui, il a dit, je vais citer, sur tout ce que je vais dire, il y aura une preuve. Et juste pour vous donner un exemple de quel genre de preuve qu'il parle, c'est qu'il dit qu'on a le droit dans l'islam de faire des partis politiques. La preuve, il dit, à l'époque du prophète, il y avait 3 partis politiques. Il y avait les musulmans, les juifs et les munafiqins. Ça c'était la preuve pour lui qu'on a le droit de faire des partis politiques. Et c'est complètement ridicule. Et c'est pour ça qu'il dit j'ai des preuves. Quelles preuves? Tu vois? C'est pas des preuves ça. Donc il prend le Coran et il l'interprète à sa façon. Puis il dit c'est ça la preuve. Quelle autre chose qu'il a mentionné? Tariq Souaidan vient du Koweït. Donc il disait dans l'islam, il disait we are more free than them. Il parlait des koufars, on vient dire nous on est plus libres que eux, en parlant des non musulmans. Il dit dans l'islam on a le droit de faire des manifestations, on a le droit de faire des marches dans la rue, on n'a même pas besoin de demander la permission de la police. Il dit si on veut construire une maison, on peut faire construire notre maison où on veut, comme on veut. On n'a même pas besoin de demander un permis de la ville pour dire où est-ce qu'on va construire la maison. On peut faire comme on veut. On est plus libre que eux. On est plus libre que les koufars. Il disait dans l'islam, il disait dans l'islam, on a le droit de remettre en question la parole de quiconque. Il dit même la parole d'Allah, même la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui, donc lui il dit c'est pas grave, on a le droit. Puis je me rappelle plus qu'est-ce qu'il a ramené comme argument pour essayer de dire ça, mais c'est juste pour dire comme si, même quand les ulama ils ont entendu ça, mais il y a des fatwas maintenant de Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Abdelaziz Al-Sheikh, sur les propos de Tariq Souaydan, ils ont dit ça c'est des paroles de kouf, c'est des paroles de kouf Akbar, c'est grave qu'est-ce qu'il a dit. Donc ça c'est pour vous dire, si c'était quelqu'un qui se, comme le cheikh il parle des jahala et des muta'alimi, eh bien lui il fait partie de cette catégorie là, le muta'alimoun, ceux qui prétendent avoir la connaissance puis en réalité c'est des ignorants, et ils prennent une partie des textes puis ils laissent l'autre. Le cheikh il dit yaquluna nahnu nastadillu bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa hum lam yastadillu bi kitabillahi حيث أخذوا طرفا وتركوا الطرف الآخر. Donc le cheikh dit ils n'ont pas pris la preuve du livre d'Allah, puisqu'ils ont juste pris une partie des textes, ils ont laissé les autres. وإنما هم أخذوا بالمتشابه. Ils ont juste pris qu'est-ce qui est équivoque. Ils ont juste pris qu'est-ce qui est équivoque. فالذي يستدل بكتاب الله هو الذي يجمع بين النصوص ويفسر بعضها ببعض ويقيد مطلقها ويبين مجملها ومشكلها وهذا هو الراسخ في العلم والعلماء قد وضعوا أصولا للتفسير وأصولا لعلم الحديث لأجل معرفة كيفية الاستدلال بالكتاب والسنة. Donc le cheikh il dit, donc celui qui veut se baser sur les preuves du Coran, eh bien, il va réunir tous les textes et il va les expliquer les uns par les autres. Et il va limiter qu'est-ce qui est, ou restreindre qu'est-ce qui est absolu par rapport au texte. Il va clarifier qu'est-ce qui est général ou qu'est-ce qui est compliqué. Donc ça, c'est la personne qui fait ça, c'est la personne qui est fermement enracinée dans la science. Ce sont les ulama. Et les ulama ont établi des fondements pour le tafsir, des fondements pour la science du hadith, dans le but de connaître justement comment on extrait les preuves à partir des textes du Coran et de la Sunna. Donc il y a des fondements, il y a des bases pour ça. C'est pas n'importe comment, c'est pas n'importe qui se permet comme d'essayer d'interpréter la religion d'Allah comme il veut. Et des exemples de ce genre-là, comme si de contradiction de ces principes-là, je pourrais vous en donner beaucoup, et on en retrouve plein, surtout chez les différents groupes, et en particulier chez les Ikhwan. Et pourquoi? Parce que les Ikhwan, ils réunissent plein de différentes sectes ensemble, et en même temps aussi, ils ont réuni, rassemblé et intégré à ça toutes les idéologies des politiciens, aussi des kuffars, et des systèmes politiques des kuffars aussi, puisque c'est un parti politique. Le groupe des Ikhwan, c'est des politiciens, et ils ont essayé d'utiliser la religion comme un outil politique, donc ils sont, à cause de ça, ils jouent avec les textes du Coran et de la Sunna pour essayer de les tordre dans leur sens à eux. Au lieu de se soumettre, ils veulent que le texte se soumette à leur passion et leur désir. Ouais. Donc c'est ça le danger. Allah. Donc le cheikh il dit ensuite ومثل ذلك ما رواه مسلم ايضا عن عبد الله ابن رباح الانصاري ان عبد الله بن عمرو قال هجرت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسمع اصوات رجلين اختلفا في ايه فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب فقال إنما هلك من كان قبلكم من الأمم باختلافهم في الكتاب فعلل غضبه صلى الله عليه وسلم بأن الاختلاف في الكتاب سبب هلاك من قبلنا وذلك مجانبة طريقهم وهذا أيضا عينا. Donc le cheikh il dit que l'exemple de ça aussi c'est comme ce qui a été rapporté par l'imam muslim selon Abdullah ibn Rabah al-Ansari, et il dit que Abdullah ibn Amr a dit, yani, je suis allé vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour, j'ai entendu les voix de deux hommes qui divergeaient sur un verset. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti et il a reconnu dans son visage la colère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en colère et il a vu ça dans son visage. Alors il a dit, les peuples qui ont vécu avant vous ont péri uniquement à cause de leur divergence à propos de leur livre, à propos du livre. Et donc il a expliqué la colère du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport au fait que les gens avaient divergé à propos du livre, hein, du Coran. Et ça, c'était la cause de la perdition de ceux qui nous ont précédés. Hein? Et donc, il y a dans ça l'ordre de nous écarter de leur voie dans cet exemple-là en particulier. Et sinon, dans d'autres textes, il y a cette catégorie-là de ressemblance aux gens du livre qui a été mentionné aussi. Et il dit, والمقصود ان الاختلاف يؤدي الى الشقاق والنزاع. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il explique que qu'est-ce qu'on veut dire ici, c'est que la divergence, ça ramène à la division et la dispute. C'est ça que ça amène. Il dit, ولهذا قال الله جل وعلا وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد فلا يجوز للمسلمين الاختلاف في القران وذلك بان يقول احدهم هذه الآية تدل على كذا ويقول الآخر الآية الأخرى تدل على نقيض ما دلت عليه هذه الآية فيحصل بينهم اختلاف وكلام الله لا يتناقض فإذا أشكل عليك شيء فلا تتسرع بالحكم قبل الرجوع إلى الآيات والنصوص الأخرى ليزول ما عندك من الإشكال لأن الآيات يوضح بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا وإن كنت لا تحسن الرجوع إلى الآيات والنصوص فتوقف واسأل الراسخين في العلم. Donc le Cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le Coran le verset 176 dans Surat Al-Baqarah, et ceux qui ont divergé dans le livre sont dans un grand schisme, sont dans une grande division, très, une division lointaine. Il dit que donc il n'est pas permis pour les musulmans de diverger à propos du Coran, et c'est pour ça que l'exemple de ça, c'est comme si quelqu'un dit tel verset il prouve telle chose, et l'autre il dit non, l'autre verset prouve le contraire de ce que l'autre verset a mentionné. Il dit donc à ce moment-là il y a une divergence qui arrive à cause de ça, et la parole d'Allah ne peut pas se contredire. Donc si tu as un conflit ou un problème par rapport à la compréhension de quelque chose dans le Coran, dans la religion, ne te précipite pas à juger avant de revenir aux textes et aux versets, hein, et aux autres textes et aux autres versets pour faire en sorte que le problème que tu as ou la difficulté à comprendre soit éliminé ou enlevé. Parce que les versets se clarifient et s'expliquent les uns les autres, et donc ils s'interprètent les uns les autres. Et si tu n'es pas capable, ou tu n'as pas la capacité de ramener les versets les uns avec les autres, et les textes les uns avec les autres, dans ce cas-là, wa alaykoum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh, alors dans ce cas-là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'abstenir, et tu dois t'arrêter, et poser la question aux hommes de science. Poser la question aux hommes de science qui sont fermement enracinés dans la science. C'est-à-dire que, dans les tafsirs, comme on a dit tantôt, il y a l'ikhtilaf al-tanawwa. Hein? Des fois, c'est l'ikhtilaf al-tanawwa. Dans ce cas-là, il n'y a pas de divergence. C'est comme par exemple, dans le verset dans le Coran, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Ihdina as-sirat al-mustaqim »« Guide-nous sur le droit chemin » Alors, les ulama ont dit « Sirat al-Mustaqim ». Certains mufastirines, ils ont dit ça, c'est « Sirat al-Mustaqim ». Ils ont dit « C'est le messager, sallallahu alayhi wa sallam ». D'autres savants ont dit « C'est le Coran ». D'autres ont dit « C'est la charia ». D'autres ulama ont dit Donc, ils ont ramené différentes choses pour expliquer As-Sirat al-Mustaqim. Et les ulama, par exemple, comme Ibn Taymiyyah, ils disent tous ces tafsirs-là, ça ramène à la même chose, à la même compréhension. Hein? Et toutes ces différentes interprétations-là sont correctes. Parce que le droit chemin, c'est le Coran, c'est la Sunna, c'est le suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la charia d'Allah. Donc, ces différents tafsirs, mais tous ces tafsirs-là, ils ne se contredisent pas, ils sont tous corrects. Tu vois? S'il y a une contradiction, ou s'il y a une interprétation qui ramène à une contradiction, une opposition entre les textes, c'est là que dans ce cas-là, on doit vérifier. Et on doit dire, bon, est-ce que les deux sont vrais ou non? Des fois, peut-être qu'un tafsir en particulier, il est ramené par une chaîne de transmission qui est faible. C'est-à-dire, le tafsir en question, il est daïf. Donc, on ne va pas prendre ce tafsir-là. On va prendre le tafsir qui est basé sur une dalil qui est sahih. Hein? Donc, des fois, tu vas trouver ça. Mais c'est pour ça que, des fois, il y a des ulama, ils se basent sur une question dans le fiqh, ils se basent sur un hadith qui est daïf. Donc, lui, il a dit telle chose, tu dois faire telle chose, mais son dalil, quand on a regardé son dalil, on a vu que son dalil n'est pas basé sur quelque chose de sahih, c'est un dalil qui est daïf. Hein? Ou bien, peut-être que c'est une autre explication, mais c'est pour dire que, il n'y a pas le droit d'avoir de contradiction, il ne peut pas y avoir de contradiction dans la parole d'Allah. C'est ça qui est important de comprendre. Donc, il faut retourner aux hommes de science pour clarifier ces choses-là. Si tu regardes, par exemple, les différences entre les madhahib, les fiqhiyah, entre les ulama, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmad, et ainsi de suite, tu vas voir que parfois certains ils vont dire un hukum, puis l'autre imam, il dit un autre hukum qui est contraire à ce que l'autre a dit en premier. Les deux ne peuvent pas avoir raison en même temps. Hein? Et c'est certain que la vérité, elle est une. Donc, c'est certain que dans ce cas-là, il y en a un qui a dit vrai, et un qui s'est trompé. Hein? Ou bien, les deux se sont trompés. Il faut regarder c'est quoi leur dalil, et puis après, tu peux voir par la suite si quelqu'un s'est trompé ou non, tu vas savoir par la suite en étudiant ces questions-là et les preuves. Le Cheikh Al-Fawzan dit ensuite: وَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ كُلَّ وَاحِدٍ بِآيَةٍ وَيَقُولُ هَذِهِ تَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيمِ على تحريم كذا ويأتي الآخر ليستدل بها على التحليل فلا يمكن أن يكون شيء حلال في آية وحراما في آية أخرى. C'est ça que j'expliquais. Il dit que tu vas prendre un verset, hein, puis tu dis ce verset-là indique que telle chose est haram, puis tu ramènes un autre verset, puis tu dis ça prouve que ça c'est halal. Alors il dit, le cheikh, c'est pas possible que quelque chose soit halal dans un verset puis haram dans l'autre. C'est une contradiction. وَإِنَّمَا يَكُونُ إِشْكَالًا يُزِيلُهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْأَدَوَاتِ الْأُصُولِيَّةِ. Donc ça c'est quelque chose que c'est un problème quand il arrive ce genre de situation-là. C'est les hommes de science qui sont capables de retirer ou d'éliminer ce genre de problème avec les outils qu'ils ont par rapport à la science des fondements de la charia, hein, ou sur le fiqh. Il dit « إما بالجمع بين النصوص والتوفيق بينها أو أن إحدى الآيتين منسوخة والآية الأخرى ناسخة لها ولا يجوز البقاء على المنسوخ بل يجب الأخذ بالناسخ. » Donc le cheikh il dit, soit que qu'est-ce que tu as fait, tu vas essayer de trouver un moyen de réunir les deux textes ensemble. On va trouver un moyen de dire que les deux textes sont valables et on peut les appliquer ensemble. Comme par exemple, il y a un hadith qui dit, par exemple, que tu ne dois pas prier après le lever du soleil. Puis tu ne dois pas prier avant le coucher du soleil. Puis il y a un autre hadith qui dit, lorsque tu rentres dans la mosquée, tu ne dois pas t'asseoir avant d'avoir fait un rak'atayn. Donc il y a des gens qui ont vu qu'à ce moment-là, il y a une contradiction, parce que des fois tu rentres à la mosquée après le lever du soleil, ou bien tu rentres avant le coucher du soleil, et là, est-ce que tu dois t'asseoir, ou bien est-ce que tu dois prier avec Athènes avant de t'asseoir, puisque le professeur a interdit de prier à ce moment-là. Et donc, certains ulama ont jugé pour dire dans ce cas-là, tu t'assois. Et il y a d'autres ulama qui ont dit non, tu t'assois pas. Tu fais rak'atayn en premier. Parce que ça, c'est une prière qui est reliée à une cause. Et les prières qui sont reliées à une cause spécifique, dans ce cas-là, tu peux les faire. Et donc, ça, c'est comment ils ont compris les textes. Parfois, il y a des divergences comme ça. Hein? Et donc, le cheikh, il dit des fois, c'est possible aussi qu'un verset en particulier soit abrogé. Puis il y a un autre verset qui vient l'abroger. Donc, il n'est pas permis, dans ce cas-là, de rester sur le verset qui est abrogé. Tu dois prendre celui qui abroge. Hein? Et il dit, « وَرُبَّمَا تَكُونُ هَذِي الْآيَةُ مُطْلَقَةً وَهُنَاكَ آيَةٌ مُقَيَّدَةٌ لَهَا وَلَا يَجُوزُ الْأَخْذُ بِالْمُطْلَقِ دُونَ نَظَرٍ إِلَى الْمُقَيَّدِ بَلْ يَجِبُ حَمْلَ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ أَوْ تَكُونُ هَذِهِ الْآيَةُ عَامَّةً وَهُنَاكَ آيَةٌ أُخْرَى مُخَصِّصَةٌ لَهَا فيحمل العام على الخاص هذه الطريقة لا يحسنها إلا أهل الرسوخ في العلم. Donc le cheikh il dit c'est ça, il parle des règles, tout ça a rapport avec usul al-fiqh et c'est ça les fondements du fiqh et c'est pour dire que lorsque tu détiens ces outils là tu es capable de gérer ces divergences là entre les textes et ces problèmes de compréhension parce que certains textes sont absolus et ils sont restreints par d'autres textes. Donc, tu n'as pas le droit de prendre un texte qui est absolu sans regarder qu'est-ce qui vient le restreindre. Donc, il est obligatoire de prendre le texte qui est absolu, puis de l'amener au verset qui est muqayyad, qui est, qu'est-ce qui vient le restreindre. Et la même chose pour les versets qui sont généraux. Des fois, il y a d'autres versets qui viennent le spécifier ou le rendre plus particulier ou plus spécifique. Alhamdulillah. Yahdikum Allah wa yaslahu barakum. Et donc, il y a dans les livres de fiqh, ça, tu trouves le chapitre Al-Mutlaq Al-Muqayyad. Et tu trouves dans, sur le fiqh, tu trouves un autre chapitre Al-Am Al-Khas. Donc, Al-Nasikh Al-Mansukh. Et ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est pour dire, il y a des versets qui sont abrogés par d'autres, ou qui sont clarifiés par d'autres, ou restreints par d'autres, et ainsi de suite. Et il n'y a personne qui maîtrise ces choses-là, sauf les hommes de science. C'est les hommes de science qui sont capables de dire quand est-ce que tel verset est applicable et de telle façon ou non. Il dit « وَلَقَدْ بَوَّلَ الْعُلَمَاءُ وَالْمُفَسِّرُونَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَصُولَ التَّفْسِيرِ فَالتَّفْسِيرِ لَيْسَ اعْتِبَاطِيًا وَعَفْوِيًا بَلْ لَهُ قَوَاعِدٍ وضوابط لا بد أن يتقنها المفسر قبل أن يشرع في بتفسير الآيات عليكم السلام ورحمة الله ولذلك قعدوا قواعد سموها أصول التفسير وطالب العلم إذا فقهها وعمل بها زال عنه كثير من هذه الإشكالات ولشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله رسالة اسمها دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب وهي مطبوعة متداولة فيها إعانة لطالب العلم تعطيه طريقة صحيحة يمشي عليها فتزيل عنه الإشكالات التي ترد على الجهال والمتعلمين في كتاب الله عز وجل. Donc le cheikh dit, il y a des ulama qui ont et des savants de tafsir, ils ont écrit des livres sur les fondements du tafsir. Et il dit le tafsir, c'est pas quelque chose qui est comme ça, yani, fait à l'aveuglette, comme ça, interprétation selon ta façon de compréhension, ta propre compréhension, tes propres idées. Il y a des fondements, il y a des règles au tafsir. Parce que des fois, tu écoutes les paroles des gens ou leurs commentaires quand tu leur parles du Coran, surtout les kuffars, yani, ils disent ces choses-là, ou les gens qui n'ont pas étudié la religion musulmane. Surtout ceux qui, parmi les musulmans, ont eu une éducation occidentale et qui n'ont pas réellement étudié, ils disent « Ah oui, mais ça c'est des interprétations. Le Coran, il y a plein d'interprétations, chacun peut l'interpréter à sa façon. » Non, c'est pas vrai, chacun ne peut pas interpréter le Coran à sa façon. Il y a des règles, il y a des principes pour interpréter le Coran et pour comprendre les interprétations du Coran. Et ce n'est pas toute interprétation du Coran qui est acceptable, qui est valable. Il y a des règles, il y a des principes. Et donc, il dit, celui qui veut interpréter le Coran ou comprendre l'interprétation du Coran, il doit maîtriser ces règles-là et ces principes-là avant même de se précipiter ou de rentrer dans l'interprétation des versets. Et il dit, c'est pour ça que des ulama ont mentionné et écrit des livres au sujet de ces règles-là et de ces fondements-là, comme dans le tafsir par exemple. Et la personne qui cherche la science, lorsqu'elle veut comprendre ces règles-là, et une fois qu'elle les a comprises, eh bien ça va être beaucoup plus facile pour lui de régler ce genre de conflit ou de problème qu'il a à comprendre les versets. Et il dit que le cheikh Mohamed Al-Amin Al-Shankiti, rahimahullah, il a un livre qu'il a écrit qui s'appelle « Daf'u Iham al-Ittirab an Ayat al-Kitab ». C'est-à-dire repousser l'impression de contradiction ou de conflit entre les versets du livre. Et c'est un livre qui a été publié, qui a été écrit, et il aide les étudiants en sciences à avoir une voie correcte à suivre dans la compréhension des versets, et qui élimine les différents problèmes justement de compréhension qui surviennent souvent chez les ignorants et ceux qui prétendent avoir muta'alimin qui parlent du Coran sans science. Après le cheikh il dit qawluhu fa'allala ghadabahu sallallahu alayhi wa sallam, il explique, il dit qawluhu fa'allala ghadabahu صلى الله عليه وسلم بأن الاختلاف في الكتاب سبب هلاك من كان قبلنا. الله جل وعلا يقول وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد, ويقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فالله عز وجل يحذرنا في هذه الآيات أن نقع فيما وقع فيه من كان قبلنا من الاختلاف في كتاب الله, مع أن كتاب الله حق كله لا يعارض بعضه بعضا ولا يناقض بعضه بعضا, ومع ذلك جاء هذا التحذير. Donc le cheikh il dit que l'explication de la parole de Ibn Taymiyyah, quand il dit que il a expliqué sa colère par le fait qu'ils avaient divergé à propos du livre et que c'était la cause de la perdition des nations qui nous avaient précédés, il dit le cheikh que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset, dans Surat al-Baqarah, le verset 176, et ceux qui ont divergé à propos du livre sont dans une division lointaine ou éloignée. Et il dit dans le verset 105, dans Surat al-Imran, et ne soyez pas comme ceux qui ont divergé, qui se sont divisés et qui ont divergé, après que leur soient parvenues les preuves claires. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces versets, nous met en garde de ne pas tomber dans ce que ceux qui nous ont précédés ont tombé, de la divergence à propos du livre. Il dit que, malgré que tout ce qui est dans le livre vient d'Allah, en entier. Et il n'y a rien qui oppose, il n'y a pas une partie qui oppose l'autre dans le livre. Il n'y a pas une partie du livre qui contredit l'autre partie. Et il dit donc, malgré ça, il y a eu l'avertissement dans le livre de ne pas justement diverger à propos du livre. Il dit, « فالواجب على المسلم لا سيما من كان عنده بصيرة وعلم ومعرفة لأسرار القرآن وأسلوبه أن يرجع بعض الآيات إلى بعض فحينها يظهر له المقصود منها جميعا. أما إذا أخذ آية على حدة وترك الآية الأخرى أو انتزع آية من سياقها واستشهد بها فتكون النتيجة زيغ وضلال. وإن كنت تزعم أنك تستدل بآية فالآية لا تدل على ما أردت, لأنه لا يصلح الاستدلال بها وحدها إلا مع الآية الأخرى التي تبينها وتوضحها, وقد تكون الآية الواحدة يوضح بعضها بعضا كما لا يستدل مبطل بآية إلا وفيها ما يكذبه, كما قال تعالى ولا يأتون بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. Donc le cheikh il dit ensuite que l'obligation pour le musulman, en particulier celui qui a de la compréhension et de la science et de la connaissance des secrets du Coran et de sa méthode et de son style, il doit ramener les versets les uns vers les autres et c'est à ce moment-là que le sens apparent va, le sens voulu de ce verset-là va lui apparaître et va lui devenir apparent. En mettant tous les textes ensemble, comme on disait tout à l'heure. Mais s'il fait juste prendre une partie des textes d'un côté, il laisse les autres textes de l'autre côté, il les prend pas, alors dans ce cas-là, c'est là que il va s'égarer, il va dévier. Ou bien, il prend un verset et il le retire de son contexte. Et il essaie de l'utiliser comme preuve de qu'est-ce qu'il veut en dehors de son contexte. Il dit, ça c'est le résultat, c'est quoi? C'est la déviation et l'égarement. Donc il dit, si tu penses que tu vas prendre comme preuve un verset et que le verset n'indique pas ce que tu veux, parce qu'il n'est pas permis de le prendre, ce verset-là, tout seul. Il faut, comme je disais au début, il faut que tu le prennes avec les autres versets qui viennent le clarifier et l'expliquer. Mais c'est-à-dire méditer sur le Coran selon ton niveau de connaissance et de compréhension. Mais méditer sur le Coran, ça ne veut pas dire méditer dans le sens que tu vas l'interpréter à ta façon. Méditer sur le Coran, ça veut dire tu médites sur l'essence de ce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran. Quand Allah dit par exemple, أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ. Donc, tu vas dire, n'ont-ils pas médité ou n'ont-ils pas observé le ciel, comment on l'a créé, comment on l'a embelli, et ainsi de suite. Donc, c'est pas méditer sur le Coran dans le sens que tu vas commencer à essayer de rentrer dans les versets, tu les interprètes à ta façon. Tu comprends? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fait réfléchir dans le Coran sur des choses par rapport à notre Créateur, par rapport à notre foi, par rapport au jour du jugement dernier, par rapport à la mort, par rapport à tout ça. Ça, tu médites là-dessus, tu réfléchis sur ces versets-là, mais c'est pas d'essayer d'interpréter les versets à tort et à travers comme tu penses. Le Cheikh, il dit, donc, si tu vas prendre juste une partie des textes, tu ne vas pas prendre les autres, tu ne vas pas arriver à la bonne compréhension. Donc tu ramènes les versets aux autres versets qui les expliquent et qui les clarifient. Et il dit, c'est possible qu'un verset vienne clarifier d'autres versets, que les versets s'expliquent les uns les autres. Et non pas comme celui qui cherche à suivre la fausseté, il va prendre un verset et il l'utilise pour prouver quelque chose. Et tu vois que le verset même contredit même ce qu'il essaie de prouver. Le verset lui-même, il l'utilise pour prouver quelque chose de faux, mais tu vois que même dans le verset même, il y a une preuve contre lui. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. C'est-à-dire, ils ne vont pas te ramener un argument ou un exemple, excepté qu'on va te donner la vérité à son sujet et la meilleure compréhension, la meilleure interprétation à son sujet. Et même Ibn Taymiyyah, il dit dans un de ses livres, il dit, chaque preuve que les gens de Bid'a viennent te ramener pour prouver leur position, c'est en réalité une preuve contre lui. Chaque mubtadi', chaque jeune mubtadi' ou quelqu'un qui est dans l'égarement, il veut essayer d'utiliser un verset ou un hadith pour prouver son point, si tu réfléchis bien sur cette preuve qu'il ramène, tu vas voir que c'est une preuve contre lui. Ça c'est une parole de Ibn Taymiyyah. Donc le Cheikh il dit, pour terminer, on va conclure avec ça, il dit والله جل وعلا أحكم هذا القرآن فقال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير فلا يمكن أن يتعارض كلامه سبحانه وتعالى إلا على جاهل ليس له حظ من العلم أو صاحب هوى يريد تضليل الناس والتلبيس عليهم فيستدل بآية من المتشابه ليقيم الدليل على ضلاله ويقول هذا القرآن يدعو إلى هذا فنقول له كذبت فيما ادعيت فالقرآن يفسر بعضه بعضا ونحن نرجع كتاب الله بعضه إلى بعض وننظر في سياق في سياقاته فهي تفسره، وكلام الله يفسر بعضه بعضا أو يفسر أو يفسر بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي وكل الله له بيان القرآن. Donc il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit que ce Coran, c'est un livre dont les versets ont été yani, expliqués de façon claire et yani, détaillée, et qui vient de la part d'un sage bien informé. Il dit que ce n'est pas possible qu'il y ait des oppositions ou des contradictions dans la parole d'Allah, excepté pour quelqu'un qui est ignorant, qui n'a aucune part de la science, ou quelqu'un qui suit sa passion et qui veut égarer les hommes et les mélanger et les confondre dans leur religion. Et donc il utilise un verset parmi les versets équivoques pour essayer d'établir une preuve sur de son égarement, hein, par rapport à son égarement. Et il dit aux gens, ça c'est le Coran et le Coran appelle à telle chose. Alors nous on lui dit quoi? On lui dit non, tu as menti dans ce que tu as prétendu. Parce que le Coran s'interprète et s'explique lui-même. Il y a des versets qui expliquent les autres. Et nous donc, qu'est-ce qu'on fait? On ramène le livre d'Allah, on ramène les versets d'Allah aux autres versets qui les clarifient. Et on regarde dans le contexte, hein, parce que le contexte des versets explique les versets en question. Et la parole d'Allah s'explique elle-même. Hein, une partie explique l'autre. Et, ou bien on interprète la parole d'Allah par des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a remis la responsabilité de clarifier le livre au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, ce qu'on a expliqué aujourd'hui, ça vient d'établir les fondements et les bases qui ont rapport avec ça, par rapport à la compréhension de la religion et de la parole d'Allah. Et c'est des fondements, c'est des bases que si on les a bien comprises et si on les a bien apprises comme il faut, personne ne pourra essayer de nous faire dévier dans ces questions-là. Personne ne pourra essayer de jouer avec nous dans la compréhension de la religion pour essayer de déformer le sens des versets et des hadiths. Et les gens qui, comme je disais tout à l'heure, les gens qui jouent le plus avec les versets de la religion, c'est les gens de Bid'a. Hein? Et peu importe leur catégorie, mais à notre époque, le plus grave et le plus... Il est égaré parmi tous les sectes, comme certains chouïrs l'ont mentionné. Les plus dangereuses de ces sectes-là, c'est la secte des frères musulmans, parce qu'ils ont mis, ils ont réuni et rassemblé avec eux des gens de toutes les tendances qui existent. Tu trouves chez eux les chiites, tu trouves chez eux les soufis, tu trouves chez eux les khawarij, tu trouves chez eux les murjias, tu trouves chez eux les asha'ira, tu trouves chez eux les... Il n'y a pas une secte parmi les sectes de Bid'a, excepté que tu les trouves parmi eux, parmi leurs membres. Et qu'ils appellent à leurs égarements dans cette secte-là. Donc c'est à cause d'eux que certains Mubtadi'a ont trouvé un moyen même de se rapprocher des gens de la Sunna pour les attirer. Alors qu'auparavant, personne n'était atteint de ces gens de Bid'a-là. Ils étaient reclus dans leur coin, personne n'entendait parler d'eux. Mais depuis qu'eux ils sont arrivés, ils ont rassemblé tous les gens de Bid'a ensemble, là tu les trouves comme maintenant tu vas trouver dans les mosquées, certaines de leurs mosquées, un tel est sur tel Bid'a, l'autre est sur l'autre Bid'a, et chacun essaie de prêcher et d'appeler à son égarement. Et tout ça c'est à cause de quoi? À cause de Yanni des Ikhwan. Et donc ça c'est pour dire que Yanni, il faut faire attention à ces gens-là. Et parmi les exemples de ça, j'en ai montré beaucoup dans les textes que j'ai écrits par rapport à Tariq Ramadan, hein, comment ils déforment les versets du Coran, comment ils jouent avec les textes, comment ils déforment leur signification. Et tu trouves ça aussi chez la plupart des prêcheurs de l'égarement. Il y en a qui font ça aussi. Donc on va s'arrêter avec ça pour aujourd'hui, inshallah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayhi wa sallallahu wa sallam على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.